Un mari pacifique, chapitre 10. Alternative. Berthe, l'avait-elle trompé? Il semblait à Daniel tout à fait déraisonnable d'en douter. C'était l'évidence même. Pourquoi croyait-il stupidement à sa bonne étoile qui l'aurait préservé de cela? Et d'autres fois, il se disait que c'était un cauchemar, un fantôme absurde. Il regardait Berthe aller et venir dans l'appartement, s'occuper du petit Gérard avec sollicitude, parler paisiblement à la nourrice. Était-ce là le maintien d'une femme adultère? Daniel, qui savait cependant combien un remords est désagréable, et se justifiait toujours, n'importe comment, de ce qu'il pouvait avoir à se reprocher, n'admettait pas que son prochain pût se juger avec la même indulgence. Il s'imaginait qu'une femme adultère, dès qu'elle a commis sa faute, se met d'elle-même, dans son propre esprit, au banc des honnêtes gens, et qu'elle passe son temps à en souffrir sans relâche. Il avait pensé quelquefois à demander des explications à Éric, mais il avait écarté cette idée. Il n'aimait pas les explications, car il trouvait toujours par avance l'argument qu'on lui opposerait, et cet argument était sans réplique. Il lui suffisait de penser à en parler à Éric pour que son ami ne lui parût plus coupable. Et il craignait alors de risquer une fausse démarche, de se montrer ridiculement jaloux, de se départir de cette attitude d'esprit très élevée que les deux amis avaient adoptée dans la vie. Cette belle confiance, cependant, ne laissait pas d'être parfois troublée par le besoin pervers de savoir. « On vous verra demain à l'étoile ?» dit un soir Éric. « Non, demain je resterai à la banque. Je fais en ce moment un travail pour M. Voreau. » Et il résolut d'aller tout de même au cours de droit pour voir si Éric y serait. Le lendemain, Berthe sortit vers 2 heures. Daniel lui recommanda de ne pas se mettre en retard. Ils avaient ce soir-là à dîner les parents de Daniel, et l'oncle Émile et la tante Amélie, dont on continuait à fêter le retour. Daniel, dans la rue Aubert, prit l'omnibus de la place Saint-Michel. C'était par une légère après-midi de mai. La rue était claire et propre. Les chevaux trottaient fortement sur le sol, avec bonne humeur. On eût dit qu'ils s'amusaient à trotter en mesure. Daniel, arrivé à la place Saint-Michel, monta doucement le boulevard. Il oubliait peu à peu pourquoi il était venu. Il arriva à l'école et gagna la petite salle froide où se faisait le cours. Il jeta un regard rapide sur les élèves. Éric n'était pas là. D'abord, Daniel n'attacha aucun sens à cette constatation. Il vit le grand Gabriel courbé et qui prenait des notes. La parole du professeur s'épandait dans l'air, se condensait à l'oreille de Gabriel, passait rapidement dans son cerveau et venait sortir au bout du bras, de la longue main osseuse et du bec de la plume, en une petite écriture méthodique et sans fin. Daniel s'assit à une table. Il écouta pendant quelques instants la voix du maître, qui traitait avec une pitié victorieuse un économiste, absent d'ailleurs, et mort depuis 100 ans. Au bout d'un instant, Daniel s'éveilla d'un rêve et se dit qu'Éric n'était pas là. Lui, qui donnait si rapidement de la vie aux hypothèses, avait de la peine à s'habituer à la réalité des faits. Quand il eut bien saisi celui-là, il en imagina tout de suite les conséquences les plus graves. Il se dit que puisqu'Éric ne se trouvait pas là, c'est qu'il était avec Berthe. Il se leva brusquement, prit sa serviette et quitta la salle de cours. Il descendit la rue Soufflot sans savoir où il allait. Et tout d'un coup, il se vit dans la glace d'une devanture, tout jeune, avec sa serviette sous le bras. Il n'avait que 23 ans et il était déjà un mari trompé. Il lui semblait que ce n'était pas de jeu. Un mari trompé, selon les chansons et la comédie, était un homme d'un certain âge. À 23 ans, c'était une injure gratuite de la destinée. Il arriva au quai en suivant la rue Bonaparte. Des crieurs annonçaient les journaux du soir. Daniel souhaita qu'une grande catastrophe fût arrivée chez lui, quelque ruine générale où s'annihilerait son deuil particulier. Puis il songea à se plonger dans la débauche et à tromper sa femme, avec n'importe qui. Cette idée lui sourit. Mais où aller? Il regarda un magasin de mode caché par des rideaux. Était-ce ou n'était-ce pas un magasin équivoque? Puis il se souvint que dans un passage où il allait chercher de vieux livres, des femmes oisives se promenaient vers la fin de l'après-midi. Il s'y rendit en pressant le pas. Le passage, comme toujours, semblait inhabité. Les magasins, dont les vitrines étaient garnies d'objets poudreux, semblaient avoir été désertés même par les marchands. Dans une galerie latérale, il aperçut une toute petite femme en chapeau marron. Elle venait de son côté. Il s'arrêta à une devanture de panier d'osier, à l'espoir qu'elle s'y arrêterait aussi et lui dirait quelque chose. Mais elle passa sans rien dire auprès de lui et ne stationna que 20 ou 30 pas plus loin devant un magasin de coquillages. Daniel se dit alors avec dépit qu'elle était stupide de faire ainsi des manières. Elle n'avait qu'un mot à dire pour qu'il la suivît. Mais non, comme il avait l'air de courir après, elle se gardait de faire des avances. Enfin, comme il s'était arrêté une autre fois devant de tristes vases de grès, il sentit qu'elle revenait sur ses pas et qu'elle s'arrêtait à ses côtés. Le cœur de Daniel battait. Il avait maintenant une grande tentation de la suivre. Mais pourquoi ne parlait-elle pas? Elle parla enfin. Elle murmura des mots indistincts. Il lui sembla qu'elle disait « Viens-tu ?» Alors il n'eut plus aucun désir de la suivre. Il l'aurait cependant accompagnée, par faiblesse, quand il s'aperçut qu'il était 7h05 et qu'il n'avait plus que le temps de rentrer chez lui pour dîner. Il s'en alla d'un pas rapide, sans se retourner. En arrivant chez lui, il trouva toute sa famille installée dans le petit salon. Il ne vit pas Berthe et n'osa pas demander si elle était rentrée. Il fit, sans avoir l'air, le tour de l'appartement, puis revint s'asseoir au salon où l'oncle Émile célébrait encore l'excellence de ses combinaisons pour leur installation dans le midi. Nous étions servis à une petite table à part à côté de la table d'hôte. C'était gai, comme à la grande table, et l'on avait l'avantage d'avoir des petits plats à soi. Et je te garantis que tous les matins, le chef ne manquait pas de venir me demander « Qu'est-ce que monsieur désirait pour son déjeuner ?»« Dis un peu, Amélie, la chambre que tu avais. »« Pas du fla-fla et des tentures. »« Une chambre à 2 fenêtres, la plus belle de l'hôtel. » »« Et nous étions à 10 minutes de la mer. » »«
Le seul ennui, » dit Amélie, « c'est que la rue était un peu étroite. »
« C'était une rue, » dit l'oncle Émile. « Et le jeu, tu n'en parles pas ?» dit Monsieur Henri.
« J'y ai été une fois, » dit Émile. « J'ai été leur porter ma pièce de 100 sous, mais je te garantis qu'ils ne m'ont plus revu. »
« Allons, allons, » dit Monsieur Henri. « Tu leur as bien laissé plus de 100 sous. »«
Tu l'écoutes ?» dit Amélie. « Il ne va pas se vanter de ce qu'il a perdu. »
L'heure s'avançait. Daniel quitta le salon et vint dans l'antichambre ouvrir tout doucement la porte d'entrée. Au bout d'un instant, il entendit la porte d'en bas s'ébrouer d'une façon retentissante. Mais la porte vitrée de l'escalier ne s'ouvrit pas. C'était sans doute une personne pour l'escalier du fond. N'y tenant plus, il prit son chapeau et descendit les 4 étages. Il allait faire un tour de 5 minutes dans le quartier. Il y avait des chances pour qu'elle fût revenue au bout de ce temps-là. Il contourna 1 ou 2 îlots de maisons, s'arrêtant un instant devant des boutiques pour allonger le temps et augmenter ses chances. Il rentra enfin rue Caumartin et demanda négligemment au concierge « Savez-vous si ma femme est rentrée ?»«
C'est que j'arrive, » dit le concierge.
« Augustine » cria-t-il à sa femme qui était dans sa petite cuisine. « As-tu vu rentrer la jeune Madame Henri ?»«
Je ne l'ai pas vue monter, » dit la concierge au bout d'un instant.
Elle apparut à la porte de la cuisine en essuyant ses mains à son tablier bleu, et Daniel se figura qu'elle le regardait méchamment. Il regagna la rue. Il était 8h10. Jamais elle ne restait si tard. « C'est fini !» se disait-il. « Allons, elle est partie. Ils sont partis ensemble. Est-ce qu'il allait falloir les rechercher, leur courir après ? Et comment raconter cela à ses parents qui attendaient là-haut ? » Il s'était posté au coin de la rue Aubert pour voir arriver les voitures. Le soir était doux, il y avait très peu de monde dans la rue. Les gens étaient dans les maisons où ils dînaient paisiblement. Daniel voyait arriver de face les fiacres découverts. Une plume blanche derrière un cocher lui donna un frisson. Berthe avait un chapeau blanc, mais l'avait-elle mis ce jour-là pour sortir ? La voiture se rapprocha, et il aperçut une dame inconnue au visage froid. Comme il revenait chez lui, machinalement, il vit, arrêté devant sa maison, une voiture, venue d'il ne savait où, et qu'il n'avait pas vue passer. Le cocher comptait sa monnaie. Il arriva jusqu'à la loge et demanda si ce n'était pas sa femme qui venait de rentrer. « Madame monte à l'instant, » dit la concierge. Il se sentit défaillir de joie. Il arriva dans l'escalier. L'ascenseur, qui portait Berthe, s'élevait bienheureusement vers le ciel. Daniel monta lentement l'escalier. Berthe était au salon, en train d'embrasser tout le monde et de s'excuser. « Daniel était inquiet !» dit Madame Henri en touchant les cheveux mouillés de son fils. « Il s'est mis dans un bel état. » « Je me dépêche de faire servir, » dit Berthe, qui alla ôter son chapeau. Daniel marchait de long en large, à grands pas, très soulagé. « Je suis sûr que tu la croyais déjà perdue, ta petite femme, » dit la tante Amélie. « Il n'aime pas qu'on se fasse attendre, » dit Madame Henri. « C'est tout à fait le caractère de son père. » Un peu agacé, il alla voir si Berthe revenait. Et comme il quittait sa chambre, son chapeau enlevé, il eut l'idée de regarder la bourse de la jeune femme qu'elle avait laissée sur la cheminée. Il se souvint qu'en sortant, elle lui avait montré ce billet, en disant qu'elle n'avait pas d'autre monnaie pour prendre une voiture. Mais il n'avait pas de monnaie lui-même et n'avait pu lui en donner. Qui donc lui avait prêté de l'argent pour payer son fiacre ? Voilà qu'au milieu de sa joie, son esprit inquisiteur découvrait ce nouveau sujet d'ennui et l'obligeait à en avoir le cœur net. Il revint dans le salon, s'approcha de Berthe, qui rangeait des fleurs dans un vase, et lui dit à demi-voix et en riant, pour ne pas soulever de discussion devant la famille. « Hé, la petite femme, qui est-ce qui lui a payé sa voiture ? « Qu'est-ce que tu chantes ?» dit Berthe. « Tu n'avais pas de monnaie en sortant ?» dit rapidement Daniel, et tu as toujours ton billet de 50 francs. » Elle rangea des fleurs, sans répondre tout de suite, d'un air très calme. Enfin, elle le regarda en face et lui dit « C'est la modiste qui m'a prêté de la monnaie. » Puis elle ajouta « C'est bientôt fini, ces enquêtes ?» On passa à table. L'oncle Émile racontait l'histoire d'un tableau qu'il avait acheté 150 francs et qu'un monsieur, un professeur d'anglais qu'il connaissait du café, un garçon qui avait visité tous les musées, avait estimé hors de prix. « Qu'est-ce que ça représente ? » dit Monsieur Henri. « Le sujet n'a pas d'importance pour la valeur, » dit l'oncle Émile. « C'est des choses insignifiantes, des petits bœufs, une petite ferme avec une montagne derrière. Mais c'est fait. » « Et c'est signé ? » ?»« Si c'est signé !» dit Émile, « en toutes lettres. Van quelque chose, un nom hollandais. » Daniel, ayant fini son potage, regarda Berthe qui mangeait sans rien dire. Il se répéta « Elle me trompe, elle me trompe. » Mais il s'étonnait de ne pas être malheureux. Il faisait bon dans cette salle à manger, il avait grand appétit, son oncle était gai et sympathique, et, en somme, Berthe était là. Chapitre 11. La vérité.
Daniel et Berthe restèrent à Paris assez tard dans l'été. On irait à la mer au mois d'août. Monsieur Voreau avait réussi à vendre sa propriété de Berninvilliers, et cette transaction avait été pour Daniel une occasion nouvelle d'admirer la force et le sang-froid de son beau-père. Depuis qu'on avait construit un hôpital à côté du jardin, Berninvilliers semblait invendable. Et quand ce monsieur et cette dame belge à qui on avait proposé la villa vinrent trouver monsieur Voreau à la banque, Daniel ne comprit pas comment son beau-père ne leur signalait pas tout de suite, lui-même, la présence de l'hôpital, puisqu'il l'apprendrait tôt ou tard, et qu'il valait mieux sans doute prévenir les objections. Quand monsieur Voreau, sans rien leur dire, les laissa aller à Berninvilliers, Daniel jugea la partie perdue. Tout le monde là-bas leur parlerait de l'hôpital, et ils se dégoûteraient fatalement de l'acquisition. Et de fait, quand ils revinrent au bureau, ils semblaient accomplir cette démarche plutôt par acquis de conscience, parce qu'il était poli de rendre une réponse. Mais au fond, M. Voreau ne le jugea pas ainsi. Il sentit sans doute que toutes les histoires qu'on leur avait racontées là-bas n'avaient fait qu'augmenter leur regret de ne pouvoir acquérir une villa si plaisante. Il ne leur parla toujours pas de l'hôpital. Et quand ils y vinrent, timidement, il haussa doucement les épaules et souffla entre ses lèvres un petit souffle léger qui, à leur grand soulagement, renversa cette objection formidable. Il se garda bien de diminuer un centime sur ses premières conditions, ne retint pas ses gens, parut pressé de vaquer à d'autres occupations, tout en laissant échapper des allusions distraites et indifférentes à des offres qu'il avait reçues pour la propriété, et leur donna l'impression inquiétante d'un grand brasseur d'affaires que cette petite opération n'intéressait point, et qui était parfaitement capable, pendant qu'ils perdaient leur temps à se tâter, de vendre sa propriété entre deux portes, dans un de ces nombreux et importants cabinets de la banque Voreau. Il les reconduisait, comme par hasard, parce que c'était son chemin pour aller ailleurs, quand ils se hâtèrent de revenir à la table bureau pour donner leur signature. La famille d'Éric Esmond était déjà partie à la campagne, dans le nord, depuis le commencement de juin. Éric devait l'accompagner, mais il s'attardait à Paris d'une façon un peu irritante et s'y trouvait encore dans les premiers jours de juillet. Il avait toujours à proposer, le dimanche, des parties de campagne. Il avait été pris pour la nature d'un goût subit, immédiatement partagé par Berthe. Daniel ne trouvait pas chaque fois de bonnes raisons pour refuser, et c'est ainsi qu'il se laissa emmener paresseusement à Chevreuse, à Fontainebleau, aux étangs de Comète. Éric ne manquait pas de venir déjeuner chez eux. Il prenait le train de bonne heure, et Daniel était d'autant plus maussade qu'il n'aimait pas se remuer après manger. Il boudait généralement à l'aller en chemin de fer. Pendant une bonne partie de la promenade à pied dans la campagne, il laissait Éric et Berthe causer ensemble à 20 pas devant lui. Quand on faisait halte pour goûter, content d'être assis et las un peu d'être de mauvaise humeur, il trouvait des raisons magnanimes pour se rapprocher d'Éric, qui n'était peut-être pas fâché, lui non plus, de trouver un nouvel interlocuteur. En semaine, Éric venait de temps en temps dîner le soir. Quand il venait trop souvent, Daniel s'en agaçait et ne se gênait pas pour montrer son agacement, abusant impunément du droit d'être impoli avec l'ami de sa femme. D'autre part, quand il restait quelque temps sans venir, Daniel s'en alarmait. S'il ne venait pas, c'était donc qu'il se voyait ailleurs. Éric arrivait parfois à l'improviste. Il disait « Je viens vous surprendre ». Son parti pris d'enjouement ne se déconcertait pas de l'accueil plutôt froid du maître de la maison. Et ces jours-là, il apportait un gâteau qui n'apaisait pas Daniel. Celui-ci regardait cette pâtisserie d'un œil hostile, et quand on la servait au dessert, s'il n'osait pas en refuser, il en mangeait sans plaisir. C'étaient ces attentions d'Éric qui avivaient la jalousie de Daniel. En temps ordinaire, elle ne le quittait pas, mais elle le laissait tranquille. Des soupçons apprivoisés dormaient en lui tout le long du jour. Il était temps qu'un fauve nouveau, plus sauvage, vint réveiller la ménagerie. À midi de juillet, comme à son ordinaire, Daniel s'était mis à table avant Berthe, qui ne sortait pas de son cabinet de toilette. Il lui avait dit à différentes reprises, à travers la porte, « Tu sais que c'est servi !» Elle répondait « Je viens !» Puis elle avait fini par dire « Commence toujours !» Daniel, après avoir mangé sa part d'omelette, était ennuyé de voir la part de Berthe refroidir sur le plat. En attendant la suite du repas, il se bourrait l'estomac avec tout le pain. Berthe avait fini par arriver, en maintenant d'une main ses cheveux et de l'autre un peignoir de molleton mal fermé. Daniel avait fait des observations. Mais de très bonne humeur, elle s'était assise, avait boutonné sa robe de chambre, enfoncé un large peigne dans ses cheveux. Puis elle avait déclaré, avec une mine de dégoût, qu'elle n'avait pas faim. Le déjeuner manquait toujours de cordialité. Depuis l'arrivée de la nourrice, les plats de viande étaient moins petits. Mais, soit défaut de persévérance ou d'autorité, le jeune ménage n'avait pu obtenir de la cuisinière qu'elle voulut chauffer les assiettes. Elle les chauffait cependant, parfois, par lubie, sans prévenir personne, de sorte qu'on s'y brûlait fortement les doigts. Berthe mangeait peu, ou beaucoup, sans faire attention. Comme elle n'aimait pas le fromage, elle laissait Daniel se fâcher tout seul, les fois où la cuisinière avait oublié d'en acheter. Et elle se contentait de dire « Et quand il y en a, tu n'en prends pas !» Daniel frappait la table de son poing et s'écriait qu'il devait toujours y avoir du fromage. Elle n'était gourmande que de fruits. Elle profitait de l'inattention de Daniel pour manger des quantités de cerises. Et quand elle avait fini, elle lui montrait tous ses noyaux pour qu'il se mît en colère et lui cria « Tant pis pour toi, si tu es malade, tu te soigneras toute seule. » Puis elle jetait sa serviette sur la table et disait « Allons voir le petit. » Ils arrivaient auprès du petit et ils le regardaient dormir dans son berceau. Malgré cette croyance de la famille Henri qu'il ne faut pas regarder un enfant qui dort. À force de le regarder, il le réveillait. Gérard soulevait ses petits bras raides et les promenait sur son visage. Puis, il ouvrait les yeux en souriant. Car il se réveillait toujours avec un sourire. Sa réputation était déjà faite sur ce point dans la famille. Comme la nourrice n'en finissait pas de manger, Berthe s'amusait à lever elle-même le petit et commençait à le laver. Ce qui exaspérait Nounou, dont le mutisme habituel augmentait encore de dureté. Ce jour-là, Berthe dit à Daniel, quand le petit se fut réveillé, « Sonne, Nounou, voilà près de 3/4 d'heure qu'elle est à table. » Quand Nounou arriva, elle lui demanda, se repentant un peu de l'avoir dérangé, « Vous avez fini, Nounou ?» Nounou répondit, « Je n'aurais pas fini que ce serait la même chose, puisque madame a besoin de moi. » Tout de même, le contact des autres domestiques l'avait enhardi, et il lui arrivait de parler quelquefois, pour dire une insolence. Berthe, moins irritable qu'à son ordinaire, haussa les épaules, sans être vue de la nourrice, et murmura à Daniel, « Crois-tu ?» Puis elle dit doucement, « Il faut que vous sortiez de bonne heure, il ne fait pas trop chaud, vous irez jusqu'aux Champs-Élysées. » Daniel demanda, « Tu ne sors pas avec le petit ?» Elle répondit, « Non, je sors seule. » Et elle s'en alla dans sa chambre. Préoccupé, il la suivit. « Où vas-tu » demanda-t-il d'un ton dégagé. Elle répondit, « Ça te regarde? Il faut maintenant que je te rende compte de tous les pas que je fais. » Il ne se fâcha pas comme il eût fait d'ordinaire. Le besoin de savoir lui donnait de la patience. « Tu peux bien, dit-il, répondre à ma question,
C'est une question naturelle. Je te demande où tu vas.
Je vais chez Madame Dumorel rendre une visite de condoléances, puisque nous n'avons été ni l'un ni l'autre à l'enterrement.
Il s'en alla dans l'antichambre, fit quelques pas en rêvant, puis il revint et dit, d'un ton qu'il trouvait aisé,
« J'ai bien envie d'aller avec toi chez Madame Dumorel, puisque je n'ai pas été à l'enterrement. »
Il n'avait aucune intention d'y aller. Il disait cela pour tâter le terrain.
Mais elle se fâcha. « De quoi ça aurait-il l'air, toi qui ne fais jamais de visite ?»«
C'est mon affaire, » dit-il.
« J'y vais avec toi. »
« Je te préviens que je serai prête dans un instant et que je n'ai pas le temps de t'attendre. »
Elle pensait bien que, selon son habitude, il traînerait longtemps à s'habiller. Mais il s'habilla rapidement, frémissant à l'idée qu'elle serait prête avant lui, et arriva au bout de 5 minutes dans le cabinet de toilette avec sa redingote neuve et son chapeau haut de forme. Il vit qu'elle n'avait pas mis son corsage et qu'il avait encore du temps de reste pour chercher, dans un tiroir en désordre, 2 gants qui ne fussent pas de la même main. Quand elle fut prête, elle sortit, et il sortit derrière elle. Dans la rue, il appela un fiacre.
« Ce n'est pas pour moi, dit-elle, que tu appelles une voiture. Il fait beau temps, je vais à pied. »
Il dut faire signe au cocher de s'en aller. Le cocher tourna bride après l'avoir regardé avec mépris. Elle marchait d'un pas pressé, sans s'occuper de lui. Il la regardait à la dérobée, et il lui sembla qu'elle fronçait un peu les sourcils, comme pour se retenir de pleurer. Elle dit tout à coup, « Je suis fatiguée, prenons une voiture. » Il pensa, « Elle est pressée et craint de s'attarder. » Il appela une Victoria et y monta avec elle. Dans la voiture, il l'examina encore. Elle regardait devant elle, fixement. Il lui sembla qu'elle souffrait beaucoup, et il eut d'autant plus pitié d'elle qu'il était lui-même malheureux. Il aurait bien voulu la laisser aller tranquillement où elle voudrait, mais il avait besoin de savoir. Et puis il se disait, « C'est peut-être la première fois qu'elle va le retrouver, et il faut que j'empêche cela. » On leur fit une réception très aimable chez les Dumorel, et on parut tenir un grand compte à Daniel de cet acte de civilité. Ils s'assirent quelques instants. Le père Dumorel était enterré depuis 5 ou 6 jours. Aussi admettait-on déjà tous les sujets de conversation, théâtre, concerts et projets de villégiature, pourvu qu'ils fussent évoqués d'un ton mélancolique. Et même on riait un peu parfois, quand l'occasion s'en trouvait, d'un rire languissant. Berthe se leva et prit congé. Ni elle ni Daniel n'avaient eu besoin de parler. Comme ils s'apprêtaient à remonter dans leur voiture, Berthe dit à Daniel « Tu as l'intention de m'accompagner? Je m'en vais à pied jusqu'au Louvre. » Il répondit « Je n'ai rien à faire, je vais avec toi. » « Alors je rentre, » dit-elle en montant en voiture. Il donna d'une voix faible leur adresse au cocher. Puis il s'assit à côté d'elle. Il ne pensait même pas à retirer ses gants, comme il faisait toujours après une visite. Il avait hâte d'être chez lui, pour savoir ce qui se dirait et ce qui se passerait. Il allait y avoir du nouveau. Le cocher, ralentissant au carrefour, poussant sa bête quand il y avait un peu de champ, les emmenait le long des rues comme n'importe quel client. Et arrivé rue Caumartin, il semblait hésiter et chercher le numéro de cette maison si importante et que Daniel connaissait si bien. Berthe, pendant que Daniel réglait la voiture, entra dans la maison et évita de prendre l'ascenseur. Elle ne voulait pas attendre Daniel. D'autre part, elle ne pouvait pas non plus faire monter l'ascenseur sans l'attendre. Il ne fallait rien faire dans un moment aussi grave qui pût ressembler à une espièglerie. Elle arriva dans sa chambre, ôta son chapeau et s'étendit sur sa chaise longue. Daniel alla voir le petit et demanda distraitement à la nourrice « Vous êtes rentrée, nounou ?» Puis il revint auprès de Berthe et s'assit à côté d'elle. « Écoute, dit-il en lui prenant la main. Elle eut comme une crise de pleurs.
« Je te déteste !» dit-elle. « Je te déteste !»
Elle pleurait. Elle lui semblait sans force, à sa merci. Elle ne pourrait rien lui cacher. Il eut peur d'en profiter, de savoir quelque chose. Mais il parla tout de même. « Tu es sa maîtresse ? » demanda-t-il. Elle ne répondit rien et pleura de plus belle. C'était un aveu. Mais il avait déjà été si près de la vérité, qui lui avait toujours échappé, qu'il lui fallait désormais un aveu formel que rien ne pourrait plus rétracter. « Écoute, dis-moi que tu es sa maîtresse. Je t'en prie, que je sache. Fais oui avec ta tête. Es-tu sa maîtresse ?» Elle répondit faiblement « Oui ». Daniel répéta « Oui ? Oui ?» Puis il se mit à pleurer en la regardant. Et comme elle le regardait et pleurait aussi, il pensa que cette fois, c'était pour lui qu'elle pleurait. Il lui sembla qu'elle était désormais plus séparée de lui, mais qu'elle lui était moins étrangère. Il poussa des sanglots plus forts et plus enfantins. C'est de cette façon-là qu'il se parlait, et qu'il se disait grossièrement, avec des sanglots, de bonnes choses douloureuses. Chapitre 12. Résolution. Quand il eut bien pleuré auprès de sa femme, et qu'il sentit un peu de fatigue d'être à genoux, Daniel se leva et marcha de long en large, lentement. Il s'aperçut dans la glace. Dès qu'il se voyait dans une glace, il était perdu. Ses bons sentiments faisaient place à de belles attitudes. Il avait les paupières rougies et dans ses yeux noirs une tristesse assez profonde. Ses yeux, en s'examinant dans la glace, changèrent leur reflet Dieu triste en un reflet Dieu curieux. Et Daniel, pour leur rendre leur expression première, dut y ramener un peu de tristesse artificielle. Il reprit sa marche à travers la chambre, à grands pas, les mains engagées dans ses bretelles. Il lui suffisait de marcher ainsi pendant un moment pour se sentir animé d'une mâle énergie qui n'attendait qu'une décision quelconque pour l'exécuter. Depuis que son infortune conjugale était bien étalée, sa vanité n'en sentait plus la blessure. Il ne lui semblait pas qu'il fût un mari trompé comme les autres. Les circonstances étaient spéciales. Jadis, quand il était au lycée, ses mauvaises places n'avaient pas, comme celles des autres élèves, un caractère infamant. Elles pouvaient être fréquentes, elles étaient toujours exceptionnelles. Daniel se consolait de ses ennuis parce qu'il lui paraissait d'une espèce rare, presque unique, jusqu'au jour où il s'en consolait d'une autre façon, en s'apercevant qu'ils étaient très répandus. Il craignait fortement de voir diminuer son prestige, mais il ne s'avouait jamais qu'il était diminué une fois le fait accompli. C'était une constatation trop pénible. En somme, deux personnes seulement, sa femme et son ami, étaient au courant de son aventure. Ils verraient Eric. Ils auraient ensemble une explication, qu'il attendait désormais sans aucune gêne, et même avec une certaine impatience. Eric n'était pas un homme violent. Et d'ailleurs, si une solution violente devait intervenir, l'initiative n'en serait permise qu'au mari. Or, Daniel était également très rassuré sur la douceur de ses propres sentiments. Il n'était pas un barbare, un homme des cavernes. Il appartenait à une époque et à un pays civilisé, où tous les différends peuvent se traiter à l'amiable. C'était une satisfaction de penser que, dans cette entrevue, il présiderait en quelque sorte. Ce serait à lui de diriger la conversation, puisqu'il avait affaire à un interlocuteur dont le tort était manifeste. L'occasion semblait belle pour faire preuve d'indépendance d'esprit et de magnanimité. Mais quelle solution pourrait-il, non pas imposer, mais proposer ? Il était facile de prier Eric de ne plus revenir à la maison. Mais Berthe l'aimait, et qu'adviendrait-il de cette mesure de rigueur? Il regarda sa femme. Elle était toujours étendue sur sa chaise longue, la tête sur son bras replié. Tout à l'heure, pour pleurer plus à l'aise, elle avait retiré son chapeau, ouvert son corsage et son corset. Elle avait les yeux à demi-clos et comme une raie de nacre sous la paupière. C'est ainsi qu'elle dormait d'habitude. Daniel la regarda. Parfois, elle ouvrait les yeux tout grands et les fixait droit devant elle, sans voir Daniel, aussi loin de lui que si elle eût dormi. Il vit ses sourcils un peu froncés et se dit que rien ne changerait, ne détournerait, ne briserait les idées de cette petite tête. Il pensa qu'il pourrait divorcer et laisser Berthe épouser Éric. Cette solution pacifique lui plut. Il feignit de la croire réalisable. Mais il prévoyait toutes les difficultés. L'opposition des parents d'Éric. Et que diraient ses parents à lui? Et tout cela n'était rien encore. Il pensait qu'Éric n'aimait pas Berthe. Cette idée lui était très douloureuse. Il détestait que Berthe eût de la peine. Il n'avait aucun plaisir à être vengé de son dédain. En amour, on n'aime à être vengé que par soi-même. Il s'approcha de Berthe, s'assit sur le bord de la chaise longue. « Écoute-moi, » dit-il d'un ton décidé. « Il faut que tu l'épouses. » Elle l'écoutait complaisamment, sans joie. Elle non plus n'avait pas l'air d'y croire. « Voyons, crois-tu qu'il t'aime assez pour t'épouser ?»«
S'il m'aime !» dit-elle en levant les yeux au ciel, comme si c'eût été un blasphème d'en douter.
Cette confiance fit mal à Daniel. Plus il y pensait, plus il croyait Éric incapable d'un amour sincère.
« Je vais lui écrire, » dit-il. « Je lui donnerai un rendez-vous pour ce soir. »
Il écrivit ce petit bleu. « Trouvez-vous ce soir au Grand Café à 9 heures. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. » Sur le point de signer, il pensa qu'il ne pouvait mettre ni cordialement, ni amitié, et qu'Éric serait troublé par l'absence de cette formule. C'était bien son droit de lui faire passer un mauvais moment. Mais il n'avait aucun plaisir à tourmenter les gens, tant l'inquiétude lui était insupportable. Au-dessus de son nom, il griffonna quelques traits indécis qui n'engageaient à rien et qui pouvaient vouloir dire « à vous ». Il revint auprès de Berthe, et tous deux parlèrent du divorce prochain. Berthe pensait, elle aussi, que les parents d'Éric feraient des difficultés.
« Et ce qui ne sera pas commode, » dit Daniel, « c'est de l'annoncer chez moi. »
Il déclara, non sans émotion, qu'il lui laisserait le petit.
« Je viendrai vous voir quand vous serez mariés, » dit-il encore.
« Quand est-ce que tu en parleras chez toi ?»«
D'ici quelques jours, » dit Daniel.
« Je ne suis pas non plus très pressée, » dit Berthe, « d'annoncer ça à mes parents. »
« Il sera temps la semaine prochaine. »«
Si ça pouvait s'arranger, » dit Berthe avec un soupir, « ce serait vraiment bien. »«
Ça s'arrangera, » dit Daniel,
« sois tranquille. » Il y avait bien longtemps qu'ils n'avaient causé aussi gentiment. On sonna, ils prêtèrent l'oreille.
« C'est maman, » dit Berthe au bout d'un instant.
« Quelle scie !»
Chapitre 13. L'entrevue. Quand Madame Voreau entra dans la chambre, elle vit que Berthe avait les yeux rouges. Elle eut un regard sévère pour Daniel, qui se sentit le cœur gros de cette injustice. Elle leur annonça qu'elle dînerait avec eux, M. Voreau dînant aux Champs-Élysées, pour une affaire industrielle avec des Anglais. C'était à 9 heures que Daniel devait rencontrer Éric au Grand Café. Il était 6 heures à peine. Comment occuper le temps jusqu'au dîner? Il était fatigué, se sentait mal aux jambes. Il chercha un coin pour dormir. La fenêtre du salon était ouverte, le temps s'était gâté, il avait plu, la fraîcheur des averses d'été entrait par la croisée. Daniel regarda un instant au dehors.
Le ciel était tout noir d'autres pluies imminentes. Dans la rue, des fiacres désœuvrés, la capote luisante d'eau, s'en allaient à un petit trot mou sur le sol clapotant. Daniel ferma la fenêtre. Il chercha un meuble pour s'y étendre. Le canapé, couvert d'une housse, était occupé par des paquets de rideaux. Des fauteuils anglais tendaient sans cordialité leurs bras maigres. Daniel retrouva enfin, derrière le piano, une vieille chaise d'étoffe, lourde et basse, qu'on avait mise là pour remplir un coin. Il s'y installa et se laissa noyer par le sommeil, doucement. Quand il se réveilla, avec la honte d'un homme dans la force de l'âge qui s'est endormi pendant le jour, les événements nouveaux se présentèrent à sa mémoire. Il les accueillit en bâillant. Puis il se demanda tout à coup si Berthe, par besoin de parler, n'aurait pas tout dit déjà à sa mère. Il se rendit un peu gêné dans la chambre. « Crois-tu ? » disait Berthe à Madame Voreau. « Elle a le toupet de me compter 15 pièces de soutage pour ma robe tailleur. Comment ça peut-il être possible ?»« Tu sais que ça en prend beaucoup. Tu as déjà 5 raies dans le bas de ta jupe, qui ne manquent pas d'ampleur. »« Je veux bien, » dit Berthe, « mais 15 pièces !»« Je t'avais prévenu, » dit Madame Voreau. « Tu t'es émerveillée quand elle t'a dit son prix de façon... » Il était à prévoir qu'elle se rattraperait sur les fournitures. Combien est-ce qu'elle te compte, la pièce ? 150. Ça n'est pas donné, dit Madame Voreau. De la soutache comme ça, on en a facilement pour 4 francs dans les grands magasins. Oui, dit Berthe, mais il faut courir. Et quand on a trouvé quelque chose qui vous plaît, ça ne va pas avec la robe. C'est quelquefois toute une histoire pour réassortir.
« Pour ce que tu as à faire, » dit Madame Voreau, « si tu gagnes 50 francs sur les fournitures, ça vaut aussi la peine de se donner un peu de mal. Allons, je vais voir le petit avant qu'on se mette à table. Tu sais qu'il n'est pas loin de 8 heures. »«
Il faut se dépêcher, » dit Daniel, « j'ai un rendez-vous à 9 heures. » Madame Voreau était sortie de la chambre. « Eh bien, » dit Daniel à Berthe en souriant, « elle en est à 100 000 lieues. Ça ne sera pas commode de la mettre au courant. » Berthe fit une moue qui voulait dire quelque chose comme « fichtre non ». Elle regarda Daniel en souriant aussi. Il y avait un secret entre eux qui les rapprochait. À table, Madame Voreau parla de la villégiature prochaine. Il était question de Dieppe et d'un joli chalet qu'on leur avait signalé sur la route de Pourville. Daniel pensait à ses projets que le divorce allait bouleverser. « Il faudra, » dit Madame Voreau, « que ton mari vienne de temps en temps passer quelques jours à la banque, afin que papa puisse venir un peu là-bas profiter de la mer. En tout cas, le dimanche, ils viendront tous les deux. Vous ferez bien, Daniel, de prévenir vos parents s'ils sont dans l'idée d'y aller aussi avec votre oncle et votre tante. La saison est déjà très avancée pour louer. »
« Je les préviendrai, » dit Daniel, après un coup d'œil à Berthe. « Il faudrait leur parler auparavant d'une chose plus grave. »
Comme il se levait pour partir, Madame Voreau le retint. Elle avait apporté un gâteau viennois dont il dut prendre un large morceau. Jamais il ne s'était montré si aimable et jamais on avait si bien dîné. Comme il commençait à faire nuit, on alluma. Tout de même, il allait être obligé de porter le trouble dans cette vie de famille, qui ne lui avait jamais semblé si paisible et si gaie. Il prit congé de Madame Voreau, Berthe le conduisit dans l'antichambre.
« Qu'est-ce que tu vas lui dire ? » demanda-t-elle curieusement.
« Je ne sais pas, nous causerons. » Au moment de quitter sa femme, il ne l'embrassa pas comme les soirs passés. Il lui donna une poignée de main de grand ami, une poignée de main haute et solennelle, comme s'en donnent les petits garçons et les petites filles dans les squares. Ces graves événements de leur vie devenaient un peu puérils. Ils avaient dépensé en une fois leur disponible d'émotions. Il fallait reconstituer une provision nouvelle. Cependant, en approchant du grand café, où peut-être Eric se trouvait déjà, Daniel se sentit de nouveau un peu secoué. Il traversa la salle d'entrée et gagna la galerie du fond où il s'était souvent déjà donné rendez-vous. Il n'y avait là que des joueurs de billard et des consommateurs isolés, de vieux messieurs, des officiers en retraite, moustachus et pleins d'autorité, devant leurs dociles petits verres. Il était 9h05, Eric ne tarderait pas. Que faudrait-il lui dire ? C'était comme lorsque M. Vourot le chargeait d'une démarche d'affaires. Il n'avait jamais une énergie d'esprit suffisante pour préparer ce qu'il allait dire. D'ailleurs, il ne disait jamais bien les phrases préparées. Il préférait se fier à l'inspiration du moment. Il valait mieux, cette fois encore, s'en remettre au hasard loyal qui ferait parler son cœur. Pourtant, il essaya de penser à ce qu'il dirait. Mais au bout d'un instant, son attention se déroba et s'esquiva jusqu'à un objet où elle s'attacherait sans contrainte. Il regarda des gens jouer au billard. Un des joueurs, un grand jeune homme blond, frisé comme Antinous, tentait les coups les plus aventureux, des rétros pleins d'audace. À chaque coup manqué, et il les manquait tous, il faisait un geste de dépit comme s'il eût été victime d'une fatalité extraordinaire. Son adversaire, un vieillard osseux à la barbe grise mal fournie, n'en finissait pas de viser minutieusement et d'ajuster son coup. Puis, la bille mise en mouvement, il la suivait des yeux, avec une grimace douloureuse, jusqu'au moment où le coup était manqué. Alors il se résignait soudain. Comme Daniel les regardait, il dut passer à leurs yeux pour un fin connaisseur, car c'était de son côté que le jeune homme frisé jetait un coup d'œil pour le prendre à témoin de sa malchance. Daniel vit qu'il était 9h20 et pensa de nouveau à Eric. Pourquoi n'arrivait-il pas ? Peut-être n'était-il pas rentré chez lui. Du moment que l'entrevue était décidée, Daniel eût été navré d'un ajournement. « Je l'attendrai, pensa-t-il, jusqu'à 9h35. » Il avait tout son temps à lui, mais c'était un peu humiliant dans sa position d'attendre si longtemps. Cependant, le jeune homme frisé, ayant placé sa queue de billard verticalement au-dessus, essayait, à la terreur générale, un ambitieux massé. Le massé ne réussit pas, mais le tapis ne fut pas crevé. La galerie en fut quitte pour la peur ou pour une fausse joie. Daniel se mit à imaginer des coups de billard. Il pensait que s'il travaillait ce jeu, il pourrait y devenir très fort et étonner les gens dans les villes d'eau en leur proposant des parties d'un air timide et en les battant ensuite à plate couture. L'arrivée d'Eric interrompit ses rêves de gloire. Il l'aperçut inopinément dans la salle d'entrée, regardant à droite et à gauche. Enfin, leurs yeux se rencontrèrent et Eric se dirigea vers lui. Il souriait d'un sourire un peu artificiel. Daniel, très ému tout à coup, lui fit voir un visage plus sérieux. Eric cessa de sourire. Il tendit la main à Daniel, qui posa une main insensible. « Excusez-moi, dit-il, il était 9 heures passées quand j'ai reçu votre télégramme. »«
Je l'avais pourtant fait mettre à 6 heures, dit Daniel d'un ton quelconque.
« Eh bien, mon cher, j'ai reçu à 9. Vous m'avouerez que c'est scandaleux, » ajouta-t-il avec une animation forcée. « Ça devrait mettre tout au plus 1h30. L'autre jour, » reprit-il en s'asseyant à côté de Daniel, « ils m'ont déjà fait ce coup-là avec une dépêche qui m'est parvenue 3 heures en retard. »« Un café, » dit-il au garçon qui s'approchait. Daniel suivait sans rien dire les billes du billard. Ils gardèrent le silence. La pensée de Daniel s'échappait encore, se sauvait n'importe où, dans la campagne. Il eut une vision de prés, de ruisseaux tranquilles, de danses champêtres. Mais il fallait revenir au grand café, à cette table, et parler. On ne pouvait pas s'éterniser ainsi. Il passa la main sur son front et d'une voix légèrement altérée, « Vous ne vous doutez pas de la raison qui m'a fait vous écrire. » Éric fit un geste évasif. « J'ai eu avec ma femme, dit Daniel, une conversation grave. Elle m'a avoué des choses. Tout. Elle m'a tout dit. » Éric garda le silence. Daniel avait craint un instant qu'il ne crût à un piège, au procédé légendaire du mari qui plaide le faux pour apprendre le vrai. Mais l'autre avait bien senti qu'il disait vrai. Il ne répondit rien et cessa d'élargir avec une petite cuillère une petite mare de café qui tachait la table. « Voilà, dit Daniel, alors je vous ai écrit de venir ici pour savoir ce que vous comptez faire. »
« C'est à vous qu'il faut demander cela, »
dit Éric en relevant la tête. Cela fut dit d'un ton froid qui blessa Daniel. Il était arrivé là, sans haine, au bord du pardon. Pourquoi méconnaître ainsi ses bonnes pensées? Il se sentit pour la première fois gonflé d'une rancune, d'un sentiment hardi et prêt à répondre une parole dure. Mais il ne trouva rien de précis à dire immédiatement, et sa rancune eut le temps de passer. Il lui resta la satisfaction de se sentir supérieur à Éric, qui ne l'avait pas compris. Éric, cependant, avait réfléchi de son côté, car c'est lui qui reprit le premier, sur un ton froid encore, mais légèrement adouci.
« C'est à vous de décider. Je n'ai rien à dire. »
« Si vous aimez Berthe, dit Daniel, il faut que vous l'épousiez. Si vous ne l'aimez pas, c'est autre chose. Je ne veux pas que, sous un prétexte de réparation, nous adoptions une résolution dont le résultat soit de la rendre malheureuse. » Ici, sa voix trembla. Il s'attendrissait sur sa propre bonté. « L'aimez-vous assez pour l'épouser ? Demanda-t-il. Éric, après un moment de silence, répondit « Oui ». Les yeux grands ouverts, comme pour faire voir à Daniel qu'il n'y cachait aucun mensonge. Daniel ne le crut pas, cependant. Il était persuadé que s'il parlait ainsi, c'était qu'il fallait excuser sa trahison par un amour véritable. Même si Éric avait pu protester de son amour, Daniel ne l'aurait pas cru. Les protestations d'amour n'avaient pour lui aucun sens. Sa première expérience d'amoureux avait été manquée. Maintenant qu'il n'aimait plus, il s'en consolait en en tirant de l'orgueil et en considérant l'amour comme une duperie. Il lui était insupportable que d'autres pussent éprouver ce sentiment, du moment qu'il ne l'éprouvait plus lui-même. Pour qu'Éric et Berthe, jusqu'au moment du divorce, ne fussent pas tentés de se rencontrer ailleurs que chez lui, il avait pensé qu'il valait mieux autoriser son ami à revenir de temps en temps à la maison, comme par le passé. Mais il ne pouvait lui dire cela tout de suite. Il lui en parlerait le lendemain, à un rendez-vous qu'ils fixèrent. Pour le moment, il avait hâte de parler d'autre chose, de n'importe quoi. Sans s'en rendre compte, il était heureux de ne pas être fâché avec Éric. Ce n'était plus un ennemi, comme au temps des soupçons. Il était embarrassant, cependant, de reprendre une conversation quelconque. Enfin, un nouveau venu, à l'air exotique, les fit rire tous les deux, d'un rire qu'ils exagérèrent. Puis ils échangèrent, d'une voix un peu agitée, quelques réflexions. La conversation s'affermit enfin, chacun d'eux écoutant les paroles de l'autre avec beaucoup de complaisance et d'attention. Éric reconduisit Daniel à sa porte. C'était son chemin. Ils marchèrent longtemps de long en large avant de se séparer, parce que Daniel ne savait pas s'il fallait se serrer la main. Ils se dirent enfin « Au revoir », les bras ballants. C'était insoutenable. Daniel avança un peu la main, mais Éric ne vit pas ce geste et n'avança la main à son tour qu'au moment où Daniel rabaissait la sienne. Et quand la main de Daniel revint, il se trouva que celle d'Éric s'en allait. Daniel finit par laisser la sienne en suspens. La main d'Éric revint définitivement et leurs doigts s'accrochèrent, tant bien que mal. Chapitre 14. Réflexion. Berthe, en chemise de nuit et en peignoir, attendait dans son cabinet de toilette la rentrée de Daniel et le résultat de l'entrevue. Pour occuper le temps, elle avait pris le carnet de la cuisinière, dont la vérification était toujours en retard de quelques semaines. Elle était en arrêt quand Daniel arriva, devant un mot illisible qui ressemblait au mot « ficelle », mais qui signifiait certainement autre chose, car il y en avait pour 2,80 francs. Daniel avait l'air satisfait et supérieur d'un homme informé. Pourtant, il était un peu gêné de parler d'Éric sans que Berthe commençât. Il s'assit en face d'elle et la regarda en souriant. Il souriait beaucoup depuis quelque temps. Il lui plaisait de faire preuve d'une grande indépendance d'esprit et de s'occuper des amours de Berthe avec une sollicitude indulgente. Il cherchait toujours éperdument à éviter les situations inférieures, et tenait donc à ne pas paraître une victime. Il était comme ces petits-enfants qui cessent de jouer à courir et qui préfèrent regarder la partie quand ils s'aperçoivent que les camarades courent plus vite qu'eux. « Eh bien, » dit-elle enfin, « eh bien, je l'ai vu. Nous avons parlé. » « Il devait être ému ? » demanda-t-elle. « Très ému. »
« Tu lui as parlé du divorce ?»«
Oui, c'est entendu en principe. Nous devons nous revoir demain. »«
Est-ce qu'il a été content ?»
Daniel hésita, puis finit par dire avec assurance « Très content. » « Puisque ça faisait plaisir à Berthe. » Le visage de la jeune femme s'éclaira. Elle dut penser sans doute que si Daniel avait ainsi hésité à dire « Très content », c'était par dépit, pour ne pas lui faire trop plaisir. « Nous nous reverrons demain, » répéta-t-il. « Nous arrêterons des résolutions. » Quelles seraient ces résolutions ? Il n'en savait rien encore. Mais il serait toujours temps d'y penser le lendemain. Il était d'ailleurs impatient de revoir Éric, mais pour lui parler de toutes sortes de choses, comme à un ami avec qui on n'est plus fâché. Il pourrait causer avec plus d'abandon, maintenant que la gêne de la première rencontre était dissipée. Il était persuadé qu'Éric l'aimait beaucoup. Il parlerait du divorce très discrètement. Il avait horreur de proposer aux gens des solutions qu'ils pourraient ne pas accepter de bon cœur. Mais il continuait, aux yeux de Berthe, à croire à la réalisation de ce projet. C'était nécessaire à son attitude. C'était la seule façon pour lui de ne pas paraître un mari complaisant. Cependant, Berthe s'était déshabillée. En chemise de nuit, ses pieds nus dans des mules, elle alla écouter à la porte de l'enfant s'il était réveillé. Puis elle revint dans le cabinet de toilette et défit ses cheveux qu'elle mit en natte pour la nuit. Elle bâillait parfois avec tranquillité. Cette façon de vaquer devant lui, comme si rien ne s'était passé, à ses soins de toilette, gênait un peu Daniel, qui affectait de ne plus l'embrasser que sur le front, presque cérémonieusement, et semblait la considérer désormais comme la femme d'un autre. Il pensa que, dès le lendemain, il faudrait trouver, pour faire lit à part, un prétexte qui ne sembla pas suspect au domestique ou à Madame Voreau. Quand il vint se coucher, le plus loin d'elle possible, tout au bord du lit, elle dormait déjà. Lui avait dormi avant le dîner et n'avait pas sommeil. Il regarda la veilleuse sur la cheminée. C'était une veilleuse ordinaire, une petite flamme à la surface d'un bain d'huile. Tout près d'elle, elle éclairait un coin de la pendule et la photographie du grand-père Voreau. Mais lorsqu'elle crépitait, elle remuait à elle seule au plafond de vastes ombres. En dépit de la tristesse de cette lumière, Daniel ne voulait pas être malheureux. Tout de même, si Berthe venait dans ses bras, si elle l'embrassait en pleurant, quelle minute de joie ! Mais c'était un rêve chimérique. Et qu'arriverait-il après ? Était-il plus qu'avant capable de l'aimer, de la distraire ? il commençait à se méfier des rêves d'avenir. Il savait avec quelle facilité on prend des résolutions pour l'avenir, avec quel geste solennel on accepte des responsabilités. Il se souvenait qu'à l'âge de 17 ans, il avait dit gravement à un petit cousin de 12 ans qui venait de perdre son père « Tu n'as plus de papa, c'est moi désormais qui serai le tien. » Puis le petit cousin avait été mis en pension au lycée de Versailles. Daniel était allé le voir un jeudi et n'y était plus retourné. Il n'avait pas le cœur de consacrer sa vie à essayer de reprendre Berthe. C'était une tâche vaine. Il connaissait trop son regard indifférent, décourageant. Il ne lui voyait des yeux tendres que lorsqu'elle était malade. Ainsi donc, si par impossible il la reprenait, il ne saurait pas la garder. Il fallait chercher pour se consoler un autre espoir. Se venger d'elle, bien qu'elle lui eût fait du mal, bien qu'elle eût cherché avant tout à se distraire avec une sorte d'oubli de lui qui ressemblait à de la cruauté, il ne lui en voulait pas. Il n'était pas capable de la haïr. Il n'avait aucun soulagement à souhaiter une vengeance. Il ne lui restait qu'un seul moyen de rester dans une situation supérieure. Il fallait être bon pour elle. Voilà quelle était la dernière ressource de sa vanité. Et voilà ce qu'elle lui conseilla, d'accord avec sa bonté paresseuse. Dans sa paresse, il avait d'ailleurs cette excuse qu'il ne put jamais prendre son parti de la douleur de Berthe, et que sa lâche tranquillité en était irrémédiablement troublée. L'idée qu'elle était malheureuse, ou seulement inquiète, lui était intolérable. Il se disait parfois qu'il aurait dû être plus dur pour elle, pour son bien, mais il ne pouvait pas. Dès qu'elle souffrait, il ne voyait pas plus loin que le bout de sa souffrance. Il n'aurait jamais l'énergie de la prendre violemment aux épaules pour la détourner d'une route dangereuse. Tout ce qu'il pourrait faire, c'était de l'y suivre et d'écarter d'elle les ronces du chemin. Il espérait bien qu'on ne le saurait jamais et que des gens sévères ne lui reprocheraient pas de dépenser sa bonté au profit d'un petit être léger dont la souffrance lui était odieuse et dont la joie lui était agréable, alors que la bonté, monnaie morale, doit servir, comme le bronze des médailles, à payer le mérite et la vertu. À quel gaspillage irions-nous si on laissait la bonté s'en aller toute seule, à sa guise, où ça lui fait plaisir? Pour l'instant, on ne saurait rien de cela, et Daniel s'arrangerait sournoisement pour que Berthe ne fût pas malheureuse. Le mariage avec Éric se ferait ou ne se ferait pas. Daniel préférait qu'il ne se fît pas, et qu'aux yeux de ses parents, sa vie ne parût pas bouleversée. Il garderait son malheur pour lui tout seul et tâcherait de s'en accommoder.